Comment ça se passe aujourd'hui pour vous en classe? Merci de nous avoir rejoints déjà, je suis désolée, je ne vous ai pas dit bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Jean-Rémy Gérard, vous êtes prof de français au lycée et président du SNALC. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous si vous proposez à un élève de redoubler, comment réagit la famille? Comment c'est perçu?
Alors c'est très variable, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a le taux de redoublement dans la quasi-totalité des classes, il est en dessous de 1%, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment plus. En fait, de redoublement. Les rares cas de redoublement qu'on ait, c'est des élèves qui ont été, par exemple, malades pendant une partie de l'année scolaire, des élèves qui n'ont pas eu leur bac et qui donc redoublent pour essayer de l'avoir l'année suivante. Mm-hmm. Ça peut arriver encore qu'on le propose. C'est la famille qui décide. Dans beaucoup de cas, il y a échange, hein, il y a discussion avec la famille. La plupart des familles sont tout à fait à l'écoute. Mais ça se termine généralement par, on en a discuté, finalement, on préfère lui laisser sa chance dans la classe suivante. Généralement, on n'avait pas tort, j'ai envie de le dire comme ça, c'est-à-dire que souvent, on constate que l'année d'après, les miracles annoncés par l'élève, comme quoi il allait se mettre au travail, etc., ça peut exister, c'est plutôt la minorité.
Alors, on va faire un petit bond dans le passé, le redoublement, c'était une pratique qui a pu être assez courante dans les écoles primaires de la Troisième République, au moment de la création du Collège unique en 1975, il est devenu plus rare ensuite dans les années 80, et depuis une dizaine d'années, le recours au redoublement a fortement baissé. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu la loi de 2013, hein, la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école et de la République, on peut lire « Il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements car il s'agit d'une pratique coûteuse et dont l'efficacité pédagogique n'est pas probante. Le redoublement d'une année scolaire doit être exceptionnel. » Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais le taux de redoublement dans vos classes, c'est combien ?
C'est moins de 1% sur la quasi-totalité des classes aujourd'hui. En fait, il y en a quasiment plus. Hein. C'est en chute très très importante depuis, j'allais dire, l'an 2000, même si le phénomène est encore plus ancien. Et cette loi en 2013, puis l'application en 2014, ont fait que le redoublement a quasiment disparu. La difficulté, c'est qu'on a fait disparaître le redoublement, dont effectivement l'efficacité est discuté, et le redoublement comme système est discuté, hein, tout à fait, sauf qu'on l'a remplacé par le passage systématique dans la classe supérieure, sans aucune aide, et alors ça, on sait que ça marche pas, hein, pour le coup.
Alors, on va regarder les chiffres qui étaient dans l'enquête PISA 2022, hein, qui a été publiée cette semaine par l'OCDE, qui montre qu'en France, les élèves redoublent beaucoup moins qu'en Allemagne ou en Espagne, hein, 10% d'élèves ont redoublé au moins une fois au primaire ou au secondaire, 19% en Allemagne, 21% en Espagne, c'est beaucoup, beaucoup moins dans les pays du nord de l'Europe et au Royaume-Uni. Jeanne Daudet, vous vous êtes penchée sur les études. On le disait tout à l'heure, ce redoublement, il est beaucoup discuté. Elles disent quoi, les études, sur l'efficacité du redoublement pour les élèves en difficulté ?
Mais écoutez, plusieurs études ont montré en fait que le redoublement pouvait avoir des effets négatifs sur les résultats scolaires ou bien encore sur l'estime de soi. En 2014, une enquête de l'OCDE affirme que les redoublants sont plus exposés au risque de décrochage scolaire. Des sociologues expliquent même que l'élève est meilleur l'année où il redouble parce qu'il refait le programme à l'identique, mais que cet effet bénéfique s'estompe dès l'année qui suit et sur le long terme. Même constat en 2015, dans un rapport du Centre national d'études de système scolaire qui affirme que dans la majorité des études, le redoublement n'a pas d'effet sur les performances scolaires à long terme.
Puis, est-ce que toutes les études sont critiques vis-à-vis du redoublement ou pas ?
Eh bien, écoutez, en 2019, des chercheurs belges affirment que le redoublement est inefficace et socialement injuste, qu'il accroît les inégalités liées à l'origine socio-culturelle. Quelques publications, tout de même, sont plus positives. Le ministère de l'Éducation nationale met en avant une étude de 2021. L'existence du redoublement renforcerait finalement la motivation des élèves pour ne pas redoubler. Ils élèveraient leur seuil d'exigence scolaire, ce qui favoriserait leur réussite. Enfin, certains sociologues estiment quand même que le redoublement peut être bénéfique à des années charnières, par exemple en troisième ou en seconde, parce que qu'est-ce qui se passe cette année-là, c'est des années où on va commencer à faire nos premiers choix d'orientation en tant qu'élève. Et dans ce cas, le redoublement n'est pas forcément lié à des résultats scolaires faibles. Il peut permettre en revanche à l'élève de changer de voie, d'aller dans une filière qu'il a finalement envie de suivre.
Merci beaucoup, Jeanne Dedé. Jean-Rémy Girard, une réaction à ces chiffres, à ces études?
Oui, en fait, on a fait un certain nombre d'études sur le redoublement dans des conditions scientifiques qu'on peut qualifier de discutables, pour des raisons très évidentes, c'est qu'on ne peut pas à la fois faire redoubler et ne pas faire redoubler le même élève. Du coup, pour faire des études scientifiques, il a fallu essayer de trouver des panels comparables aux élèves qui ont redoublé, mais qui, eux, n'ont pas redoublé. Et en fait... les chercheurs qui ont étudié les études sur le redoublement en ont souvent conclu qu'elles-mêmes présentaient beaucoup de biais.
Oui, donc, sur la méthodologie, voilà, c'est vrai.
Sur la méthodologie. Mmh. Donc, c'est très très difficile, en plus, d'évaluer un autre effet potentiel du redoublement, qui est l'effet non pas individuellement sur l'élève qui redouble, mais sur l'ensemble du système, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir envie de redoubler. Et donc de se dire, je vais peut-être me mettre au travail pour éviter d'avoir à redoubler. Mmh. Tout ça pour dire quoi? D'une part, que c'est quand même mieux que ce soit les enseignants qui décident, parce que nous sommes les professionnels et qu'on ne va pas d'un seul coup se mettre à faire redoubler tout le monde, faut pas s'inquiéter, très clairement, mais que ça rappelle notre professionnalité, ça a à voir aussi avec l'autorité de l'école, de manière générale. Si nous, on met des notes, si un élève a 3 de moyenne et qu'on dit « non, c'est pas grave, il passe dans la classe supérieure, tout va bien se passer », forcément, l'autorité de l'école en prend un coup. La deuxième chose, c'est qu'il y a sans aucun doute d'autres choses plus efficaces que le redoublement. Elles ont généralement le défaut de coûter plus cher que le redoublement, qui est en fait une pratique, certes, budgétairement un peu coûteuse, mais beaucoup moins que les autres pratiques qui pourraient exister.
Christophe, pourquoi il remet au goût du jour le rassemblement? En tout cas, pourquoi il veut lever le tabou? Oui, le redoublement.
D'abord, il fallait que le redoublement fût réhabilité. Imparfait du subjonctif, parce que je suis à côté d'un prof de français.
Donc,
je fais attention, parce qu'on voit bien le débat pédagogique qui s'est installé. Envoyer un enfant dans une classe supérieure alors qu'il n'en a pas le niveau, c'est l'envoyer au casse-pipe. C'est vraiment, vraiment dommageable. Et par ailleurs, si la classe doit ralentir entièrement pour qu'il ne soit pas décroché, ça va lui valoir la vindicte des autres élèves. Le redoublement, c'est pas de la part des enfants une volonté. On se dit pas tiens chic, je vais redoubler comme ça, je vais encore passer une année tranquille au chaud. Non, au contraire, ça éloigne la perspective des examens, ça éloigne la perspective de changer d'établissement, de passer à la vie d'adulte. Donc c'est un traumatisme. Il faut évidemment jamais humilier le redoublé. Il faut lui montrer que c'est une chance pour lui. Et ça vient dans un moment politique où le ministre actuel a décidé de reprendre en main tous les fondamentaux où il y a de l'autorité. Autorité par rapport à la laïcité, ça a été le débat sur la baïa. L'autorité par rapport à la discipline, ça a été le débat sur le harcèlement scolaire. On ne laisse plus rien passer. Autorité sur le niveau. Quand on n'a pas le niveau, on redouble. Pas parce que on est puni, non. Parce qu'on ne veut pas, l'institution ne veut pas laisser passer dans la classe supérieure quelqu'un qui n'aura pas le niveau de se battre et de jouer sa chance à fond dans la classe supérieure. C'est une double peine. Tu as été mauvais cette année, tu seras noyé l'année prochaine. C'est une double peine que de laisser passer un élève qui n'a pas le niveau. Le redoublement doit être conçu comme une chance, à condition bien sûr, de donner les moyens aux enseignants qui gèrent des redoublants, de les aider. J'ai interviewé cette semaine une ministre, la ministre de l'égalité homme-femme, Bérangère Couillard, qui m'a fait l'éloge au micro de son redoublement. Parce que elle, ça l'avait justement remise en question et remise sur les rails. Et elle expliquait que c'était pas du tout un traumatisme et que ça lui a permis, eh bien, d'être ministre.
Alors, justement, on a trouvé ici la personne qui a redoublé. C'est vous, Jeanne?
Oui, c'est moi.
et vous êtes bien heureuse d'avoir redoublé. Ça vous a aidé?
En fait, sur le coup, moi j'ai redoublé la classe de première, donc j'étais quand même assez avancée dans ma scolarité. C'était avant la loi de 2013, donc ça se faisait encore. Sur le coup, évidemment que c'est difficile, surtout qu'après c'est le bac, donc je voyais tous mes copains partir passer leur bac, faire la fête post-bac, et moi j'avais l'impression de ralentir. Ce qui est vrai ensuite, c'est que pour le coup, en termes de travail, évidemment que ça m'a aidé. J'avais 8 au bac de français, à l'oral et à l'écrit. J'avais des notes catastrophiques. Et en fait, ça m'a aidé déjà de recommencer et de changer d'environnement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Quand on change de classe, parfois, les résultats sont aussi liés aux personnes qu'on a dans la classe. Pas forcément les professeurs, d'ailleurs. Juste l'environnement qu'on peut avoir, parfois, où ça se passe pas bien, ou forcément, donc on n'a pas forcément la tête au travail, de tout changer, de faire table rase, de changer avec des nouveaux. Et puis, du coup, on est un peu en position... Enfin, moi, j'avais trouvé ça un peu en position de force, entre guillemets. Je m'étais fait déléguer de classe la deuxième année. Et j'avais l'impression d'apporter quelque chose à ce moment-là, que moi, je l'avais déjà fait. Donc, du coup, ça m'a plutôt apporté quelque chose et j'ai eu mon bac.
Le témoignage de Jeanne Dedé. On a une question pour vous, question de téléspectatrice de Claire, Jean-Rémy Girard, qui nous dit « Est-ce que ce serait pas mieux de prévoir des classes de remise à niveau ?» pour réapprendre à lire, écrire, compter avec un professeur spécialisé?
Oui, ce serait mieux. Très clairement, ça coûterait plus cher. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont passées dans le système. Je pense au RASED à l'école primaire, les réseaux d'aide avec des maîtres spécialisés qu'on a massacrés dans les années 2010. Ce sont des choses qui avaient un impact très positif. Je pense aux groupes de niveau, puisque le ministre est en train d'en parler en collège. Si on fait un groupe de niveau à 15 élèves, il est évident qu'un élève en difficulté va peut-être avoir plus la possibilité de travailler, de s'exprimer, et le professeur va avoir plus la possibilité de le voir également que perdu dans une classe de 28. Dernier point, le ministre qui propose ce qu'il a appelé la prépa lycée, c'est-à-dire un élève de troisième qui n'aurait pas le brevet devrait faire une année de préparation avant d'entrer en classe de seconde. Ça, c'est une vraie alternative au redoublement. Plutôt que de refaire une deuxième fois la même année de troisième, faire une année spécifique, on l'espère en groupe à effectif réduit là aussi, pour acquérir les bases permettant de réussir sa seconde, c'est beaucoup mieux. Ça coûte clairement plus cher. Et ça demande des enseignants. Et en ce moment, des enseignants, on a clairement du mal à en trouver.
Merci beaucoup. Merci Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous.